Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Samedi prochain, le 2 juillet, on célébrera le 200e anniversaire du naufrage de la Méduse. Un sujet que connaît bien Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le tableau de Géricault, qui représente le radeau de la Méduse, a popularisé ce triste fait divers. Deux siècles plus tard, nombreux sont les descendants de victimes ou de rescapés à entretenir la mémoire de ce qui s'est passé ce jour-là sur le banc d'Arguin. Je suis heureux que Jacques-Olivier Boudon, auteur d'un remarquable ouvrage sur la question, ait pu être des nôtres cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Younes qui souhaiterait connaître l'origine des phares maritimes.
Ou quelque chose me dit que nous allons parler d'Alexandrie. Pour le moment, nous mettons plutôt le cap sur Madère dans l'Atlantique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En ce début d'été 1816, à la barre de la frégate La Méduse, Monsieur de Chaumaret croise au large de Madère. En fait, il avait prévu d'y faire une escale, le temps de ravitailler, mais il s'est un petit peu trompé dans ses plans, il a manqué l'île et du coup, il a mis le cap sur le pic de Tède, en espérant ne pas manquer Tenerife, parce que là, ça finirait par devenir ennuyeux. Cette légèreté aurait de quoi faire sourire. J'ai envie de dire, rions pendant qu'il en est encore temps. Quatre navires sont aux ordres de Chaumaret, l'excellente frégate La Méduse, la corvette, l'Écho, qui vogue assez bien également, et puis un brick un petit peu lourd, l'Argus, et une flûte lente, la Loire, qui retarde le convoi. Du coup, le capitaine a décidé de distancer les deux derniers. Il plastronne le bon Chaumaret. Il s'imagine au sommet de la Royale avec sa noble ascendance et ses belles médailles. Dommage qu'il n'ait pas navigué depuis un quart de siècle, qu'il ne sache plus véritablement interpréter toutes les cartes qu'il a à sa disposition et que ses officiers le détestent, qu'il autorise certains de ses passagers à donner à sa place des ordres. Vous verrez jusqu'à quel point. Nous reviendrons tout à l'heure longuement sur la personnalité, sur le cas, sur les responsabilités de Duc de Chaumaret avec mon invité. Mais évidemment, on ne peut pas le dédouaner. Il est au cœur de cette affaire. Sa mission est prestigieuse. Il s'agit de mener à bon port des colons envoyés par Louis XVIII prendre possession du Sénégal. Et oui, le Sénégal vient d'être rétrocédé à la France. Le seul vrai danger du voyage, disons-le, réside dans les caprices de la côte mauritanienne et notamment dans le fameux banc d'Arguin, un gigantesque banc de sable à fleur d'eau que les cartes de l'époque indiquent mal. Le seul moyen de l'éviter à coup sûr, ce banc d'Arguin, c'est de prendre très au large dès qu'on repère le cap blanc. Et à ce moment-là, on réduit l'allure, bien entendu, et l'on sonde fréquemment, on vérifie constamment la profondeur de l'eau. Chaumaret sait tout ça, et le 1er juillet à la tombée du jour, il ordonne de virer au sud-ouest dès qu'il aperçoit le Cap Blanc. Enfin, ce qu'il a identifié comme le Cap Blanc, et qui n'est en fait qu'un gros nuage à l'horizon, semble-t-il. En réalité, la frégate et la corvette dans son sillage se trouvent encore bien plus au nord que ne le pense le capitaine. Premier sondage à 22h, 45 brasses de profondeur, tout va bien. À quelques encablures de la Méduse, l'Écho donc se méfie tout de même et en pleine nuit, la corvette, elle, préfère s'éloigner à tribord. Elle envoie même des fusées pour mettre le commandant en garde. Peine perdue, à 2h on est à 50 brasses. Et cette fois, le promontoire à bâbord, le promontoire qui se devine dans la nuit, est bien le Cap Blanc. Oui, cette fois, c'est le vrai. À 4 heures, on est à 60 brasses. À 6 heures, 80 brasses. C'est bon, pense le commandant. Le banc d'Arguin est derrière nous. Allez, cap au sud. Il est 14 heures. Quand un jeune enseigne, inquiet de la couleur trop claire de l'eau, prend sur lui de sonder. Encore une fois, on lui a rien demandé, mais il se dit que c'est bizarre quand même. L'eau devient très turquoise, un turquoise clair, comme si le sable n'était plus très loin. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alerte, le fond n'est plus qu'à 16 brasses. Chaumaret est averti, nouveau sondage, 6 brasses. Là, le commandant s'affole. Tribord, tribord, toutes. Trop tard, une grosse secousse et puis deux autres plus amorties. La quille de la frégate vient de heurter le sable. La Méduse ne bouge plus du tout. Le 2 juillet 1816, au large des côtes mauritaniennes. La frégate vient donc d'échouer, avec à bord près de 400 personnes. Non seulement elle s'est immobilisée contre un haut fond, mais elle l'a fait à marée haute. Ce qui veut dire que lorsque la mer descend, évidemment les choses s'aggravent. Le navire bientôt ne sera plus porté par l'eau. En temps normal, l'équipage devrait faire bloc autour de son commandant. Seulement, la politique s'en mêle. C'est l'aspect sur lequel j'aimerais que nous revenions, bien sûr, tout à l'heure avec mon invité. On est au tout début de la restauration des Bourbons. Vous savez, les frères de Louis XVI, en l'occurrence son frère cadet, qui règne sous le nom de Louis XVIII. On est quelques mois seulement après la chute de Napoléon. Et les jeunes officiers de la Méduse, qui ont été nommés sous la Révolution, détestent ce commandant de Chaumaret, cet aristocrate vieille école, au demeurant non dénué d'arrogance. On essaie tout de même d'alléger le navire et dans un premier temps, on met à l'eau toutes les embarcations. Et seulement voilà, on découvre qu'elles sont dans un état déplorable et que la plupart d'entre elles prennent l'eau. Alors, on va démonter ce qu'on peut des mâts, des vergues, des espars. On amarre tout ça le long du vaisseau. Pendant ce temps, la marée descend. À mesure que l'eau baisse, la Méduse se balance un peu plus sur sa quille. La coque grince sinistrement, mais elle paraît tenir bon et l'on ne perd pas tout espoir. Dès la prochaine marée, se dit-on, on devrait pouvoir mener à bien l'évacuation des passagers. Alors qui sont-ils ces passagers? Il y a les marins, bien sûr, mais aussi de nombreux hommes de troupe, des fantassins sous les ordres du colonel Schmalz et des civils, des commerçants, des fonctionnaires, bref, la population d'une petite colonie, en tout 392 âmes. Dans la nuit, le vent qui se lève secoue la frégate et la repousse un peu plus haut sur le sable. On déleste le bâtiment de ses pièces d'artillerie et sous les ordres de Schmalz, on se met à fabriquer un grand radeau. 20 mètres sur 7. Un grand radeau destiné aux marchandises les plus lourdes. Eh bien, c'est ce radeau qui, bientôt chargé tout autrement, va devenir tristement célèbre.
Les vagues de la mer sont des baisers que la mer vient poser quand elle s'ennuie d'attendre. Les vagues de la mer sont des baisers. Le sable tend sa joue à cette femme tendre. Le sort des marins est entre ses mains. La mer est une maîtresse et tous les bateaux qui vont sur son dos meurent un jour de ses caresses. Les vagues de la mer sont des serpents que la mer vient poser sur les genoux des femmes. Les vagues de la mer sont des serpents qui viennent doucement empoisonner leur âme.
Les vagues de la mer de Serge Lama sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez une émission consacrée à la frégate française devenue célèbre par son naufrage le 2 juillet 1816 au large des côtes de la Mauritanie. C'était bien sûr la Méduse avec ce radeau qui vient d'être construit.
Et oui, et nous sommes déjà le lendemain, au petit matin, à marée haute. Les opérations de déséchouage sont lancées. On jette l'ancre le plus loin possible et on vire les cabestans à force d'hommes. La frégate vacille, elle se met à pivoter un petit peu le nez vers le large. On parvient même à la faire bouger de 200 mètres. Tout n'est pas perdu. Seulement avec le soir, le gros temps revient. Les vagues assez hautes balaient maintenant le navire et cette fois, la quille casse. Purement et simplement, la carène commence à faire eau. Là, il va vraiment falloir évacuer dès l'aube. Il faut que vous sachiez que tout de suite, on a constitué en secret une liste des personnes qui seront prises à bord des canots de sauvetage, en commençant par celui du commandant. Le moment venu, seules 17 personnes décideront de rester sur l'épave. La répartition des autres se fait en fonction de la liste. 27 personnes triées sur le volet vont monter avec le commandant, qui contre tous les principes abandonne donc son bâtiment le premier. Vous avouerez que c'est pas banal. Il y a 3 autres canots de sauvetage, plus une grosse chaloupe dans laquelle on fait monter des sous-officiers et des gens encore présentables, si je puis dire. Ils sont 88 à touche-touche. Seulement, il reste encore 160 personnes à évacuer, essentiellement des hommes de troupe, des matelots, du petit personnel, dont une cantinière. Ceux-là, on les fait monter sur le radeau. Alors, naturellement, ils protestent. Il a fallu, pour plus de sûreté, confisquer aux soldats leurs fusils. Dans l'urgence, ils ont fini par s'entasser sur la machine, comme on l'appelle tout de suite. Or, ce plancher, à mesure qu'on le charge, vous imaginez bien qu'il s'enfonce. Il descend au-dessous du niveau de l'eau, bien sûr, il s'enfonce. Les gens ont bientôt de l'eau jusqu'aux genoux et même un peu plus haut que ça. Pour convaincre les plus récalcitrants, on leur a promis que toutes les embarcations seraient reliées par des filins et que donc la machine serait remorquée en bout de fil. Oui, mais voilà, la grosse chaloupe en forte surcharge est quasiment impossible à manœuvrer. Or, elle dérive elle-même dangereusement vers le milieu de la remorque. Elle risque de couper la remorque entre le deuxième et le troisième canot. Et là, le lieutenant Espio, qui commande cette chaloupe, craint que ça ne fasse couler l'ensemble. Il crie pour que les gens du troisième canot laissent aller le filin. Or, et là la méprise est totale, à bord des autres canots, on pense que c'est un ordre général, ce qui fait qu'on se met à lâcher toutes les cordes, à commencer par celle qui, en queue de remorque, retenait le radeau. À bord de la machine, c'est un seul cri d'indignation. Ils ont lâché la corde. Ils abandonnent le radeau. Le canot de tête, celui de M. de Chaumaret, va essayer de faire demi-tour. Il s'approche pour constater la situation. Il y a un moment là qui est très passionnant parce qu'on s'approche, on hésite, on réfléchit et puis l'air de rien, on s'éloigne vers la côte avec les autres, laissant les 157 naufragés du radeau dériver impuissants vers le large. Sur la machine, les gens n'ont même pas la place de s'asseoir. Ils doivent rester debout. Ils sont plus ou moins collés les uns aux autres et même agrippés entre eux pour ne pas tomber, en tout cas pour ceux qui se trouvent sur les extrémités, sur les bords. Ce plancher est glissant, la machine est sans quille, elle épouse l'angle des vagues, vous imaginez. Or, il n'y a pas de bastingage, bien entendu, et ceux qui sont vraiment trop au bord, eh bien, ils tombent à l'eau et pour certains, ils se noient. Monsieur de Chaumaret, pendant ce temps-là, n'est pas serré, lui, dans son canot avec ses invités. Il a choisi de bons rameurs pour les accompagner et il ne perd pas de vue le canot du colonel Schmalz qui marche dans son sillage. Il leur faudra quand même 4 jours d'une navigation exténuante pour atteindre le port de Saint-Louis au Sénégal et pour aborder la corvette L'Écho à quai depuis 2 jours. Le brick Largus les aura devancés finalement. Vous voyez, dans cette affaire, les premiers ont fini les derniers. Plus que 136 âmes sur la machine. Vous voyez qu'il y a eu quand même beaucoup de victimes déjà. La première nuit, c'est clair, a été une épouvante. À la tombée du jour, un certain nombre de soldats parmi les naufragés se sont mis dans la tête par désespoir de s'aborder le radeau pour hâter une fin inéluctable. Les marins qui sont censés commander la machine, le plus gradé est un simple élève quand même, les marins se sont opposés à cette initiative complètement désastreuse et c'est le début d'un affrontement. Mais vous imaginez un affrontement dans des conditions pareilles, c'est atroce. Les coups de sabre, de hache, de machette qui pleuvent dans l'obscurité, on est en pleine nuit sur cette mer qui continue d'être agitée. Quand le soleil se lève, la machine est littéralement jonchée de blessés. Il y a même des cadavres. Après 5 jours de marche sur une côte désertique sans un point d'eau potable, les occupants des 2 premiers canots de leur côté sont à bout de force. Ils sont brûlés par le soleil. D'ailleurs, plusieurs sont morts d'insolation. Ils ont été capturés par les indigènes d'une caravane maure. Mais même si les conditions dans lesquelles ils essaient de survivre sont particulièrement dures, évidemment, on ne peut pas comparer ça avec ce qui est en train de se passer sur la machine. Ces naufragés ont été donc dévalisés. Après 2 jours d'une captivité sévère à l'intérieur des terres, ils sont récupérés par une autre caravane sous la houlette d'un chef impressionnant. Ce chef, en réalité, était un officier déguisé en mort pour venir leur porter secours. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour ne pas être lui-même arrêté par d'autres personnes. Les rescapés sont donc sauvés, ou croient-ils qu'ils sont sauvés? Ils pleurent de joie. Sur la machine, il n'y a plus que 75 âmes. 75. Les rescapés ont toujours de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. La peau de leurs jambes est complètement détrempée, elle est devenue rouge violacée. Du moins, ça permet à leur corps de s'hydrater. Et malgré le soleil tropical, ils souffrent un tout petit peu moins peut-être de la soif. Mais c'est la faim qui les torturent maintenant. Ils ont beau capturer tout ce qu'ils trouvent des poissons volants, cette manne se révèle cruellement insuffisante. Alors, on ronge les cordes, on mâche des morceaux de chapeau, et puis vers le troisième ou le quatrième jour, certains, plus hardis ou moins dignes, vont franchir le pas. Le cinquième jour, disent certains auteurs. Après tout, les cadavres qui sont là et qui jonchent la machine sont comestibles. Certains, tenaillés par la honte et par la peur de ce qu'ils vont faire, commencent à sortir leurs couteaux et transgressent le tabou. Vous comprendrez que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails.
Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait revivre le naufrage de la Méduse. Alors si vous aussi cette histoire vous fascine et vous passionne, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire du naufrage de la Méduse avec ce radeau qui a été construit et ces naufragés qui tentent de survivre sur le radeau, Franck.
Alors allons voir ce qui se passe à terre peut-être pour se changer les idées. Le lieutenant Espio avait réussi à mener sa chaloupe surchargée jusqu'à une plage du nord du Sénégal. 65 hommes débarquent. Une vingtaine reste à bord. Les naufragés se mettent en route vers le sud à travers des dunes écrasées de soleil. Il faudrait pas croire que tous ces rescapés qui étaient sur les canaux aient été heureux, hein, bien entendu. Il faut les imaginer brûlés de soleil. Ils ont la langue enflée par une soif épouvantable. Certains iront jusqu'à s'entailler le bout des doigts pour boire un peu de leur propre sang, vous imaginez. Et quand ils ne boivent pas, d'ailleurs, entre nous, de liquide plus répugnant. Plus que 40 âmes sur la machine. Le stock de nourriture se renouvelle à une fréquence effrayante, si j'ose cette image un peu sinistre. En revanche, c'est la boisson qui va bientôt manquer. Les rations de vin, qui étaient le seul liquide potable à bord, sont encore diminuées. Sur la machine, les plus valides se réunissent autour du petit mât. Ils tiennent le plus cynique des conseils, puisque de toute façon, les blessés n'ont aucune chance de s'en sortir. Est-ce que, vous voyez, on pourrait peut-être abréger certaines souffrances ? On prolongerait d'autant la survie des autres. À Saint-Louis du Sénégal, M. de Chaumaret tente de chasser ses idées noires. Il a trouvé une teinture indigo du plus bel effet et il va en envoyer un échantillon au ministre. Ah, au fait, le brick vient d'être envoyé dans la direction de l'épave. Sa mission explicite est de sauver 3 barils contenant 90 000 francs en pièces d'or et d'argent. Alors que les rescapés des canaux de la Méduse sont éloignés à Saint-Louis ont fini par arriver à Saint-Louis du Sénégal, sur le radeau qui dérive en pleine mer, le nombre des survivants est maintenant très faible. Ils ne sont plus que 15 sur la machine. Vous vous rappelez qu'ils étaient 157 au départ. Ils ont surélevé le milieu du radeau pour essayer de ne plus marcher dans l'eau, parce que évidemment la machine est moins lourde. Moyennant quoi, ils ont encore plus soif. Ils ont fabriqué une sorte de tente autour du mât, où ils essaient de s'abriter un peu du soleil, tellement terrible. Au 12e jour de dérive, c'est facile à raconter comme ça, 200 ans plus tard, mais 12 jours de souffrance ininterrompue, certains, avec des matériaux qui ont été démontés à une extrémité, vont fabriquer un radeau plus petit et donc plus maniable. Ils espèrent ainsi regagner la côte. Problème, à peine mise à l'eau, cette chaloupe improvisée coule à pic. Et puis, le 13e jour, nous sommes donc, si l'on fait les comptes, le 17 juillet, les rescapés aperçoivent enfin, dans le creux d'une vague, une petite voile à l'horizon. Ça les foudroie. D'un seul coup, leurs forces sont décuplées. On hurle, on rit, on détord les anneaux d'une barrique pour en faire des hampes au bout desquelles on agite des guenilles. Mais horreur, horreur, le navire ne les repère pas. Il continue sur son air et il disparaît à l'horizon. Sur la machine, les survivants connaissent à ce moment-là la pire des dépressions. Ils s'allongent en randonnion sous leur bout de toile et ils attendent la mort. Le seul, semble-t-il, qui refusait de se coucher s'appelle Courtade. Il est maître canonnier et 2 heures plus tard, c'est lui qui repère à nouveau la voilure du même vaisseau. Il s'agit tout simplement du brick Largus, vous savez, qui était en mission de repérage, on l'avait envoyé. Les 15 hommes n'ont plus du tout la force de pleurer, mais en tout cas, ils sont bien conscients qu'ils vont être sauvés. En France, les récits de ces 15 hommes et des autres, largement répercutés par la presse et notamment par le très critique journal des débats, nous allons y venir dans un instant, tous ces récits vont provoquer un sentiment mêlé de compassion évidente, d'horreur, mais aussi de colère dans la population. Le capitaine du roi de Chaumaret devient en quelque sorte un ennemi public. Et naturellement, les adversaires de la monarchie restaurée vont en faire le symbole de tout un régime et de toute une époque. Presque étonné d'un tel déchaînement, le vieux marin vaincu, devrais-je dire, accepte d'être jugé par ses pairs. On lui reproche non seulement l'échouage de la Méduse, ça c'est évident, mais on lui reproche les conditions de son évacuation et de son abandon, ainsi que l'abandon du radeau. Une cour spéciale se réunit en mars 1817 sur un vaisseau amiral mouillé en rade de Rochefort, la même d'où, 9 mois plus tôt, il était vaillamment parti avec sa petite flotte. La sentence est sévère, quoique équilibrée. Chaumaret est dégradé, privé de ses décorations, rayé des cadres de la marine et condamné à 3 années d'emprisonnement qu'il effectuera au fort de Ham. C'est un homme perdu dont le propre fils finira par se suicider. Que reste-t-il de tout cela? Un souvenir, bien entendu. Nous allons voir à quel point il est vif encore, ce souvenir. Et puis, un chef-d'œuvre, celui du peintre Géricault. Établi dans un climat d'indignation généralisée, la grande toile est exposée au salon de 1819 au Louvre. On sait les mots du roi en inaugurant le salon. Le roi Louis XVIII s'est tourné vers Monsieur Géricault, il lui a dit « Voilà, monsieur, un naufrage qui ne fera pas celui de son auteur ». La toile se trouve toujours au Louvre, vous savez. Et dans un instant, nous allons faire notre possible pour répondre à toutes les questions qui, à ce jour, sont encore en suspens à propos non seulement du naufrage de la Méduse, mais de toutes ses conséquences, et peut-être davantage encore, parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant pour nous, des circonstances et du contexte qui l'ont permis. Bonjour Jacques-Olivier Boudon.
Bonjour.
Vous venez d'écrire un ouvrage définitif sur le sujet. Alors grâce à vous et grâce à l'expertise que vous avez acquise pendant vos longs mois de recherche, nous allons pouvoir revenir sur un certain nombre des zones d'ombre de cette affaire, car il en reste pas mal. Et peut-être que derrière le récit que je viens de faire et qui est un peu le récit façon image d'Épinal, se cachent certaines vérités assez étranges et qui pourraient surprendre nos auditeurs.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, sur Europe 1, nous faisons un bond de 200 ans dans le passé. Nous sommes en 1816 lors du naufrage de la Méduse avec votre invité, Franck Ferrand. Vous recevez Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, directeur scientifique de la bibliothèque Marmontant et auteur des Naufragés de la Méduse paru chez Belin.
Alors évidemment, Jacques-Olivier Boudon, habituellement, quand vous venez à ces micros, c'est pour nous parler de Napoléon et de l'Empire. Et voilà que vous vous intéressez au radeau de la Méduse, ou plutôt au naufrage de la frégate et à toutes ses conséquences. Pourquoi cet intérêt pour le radeau de la Méduse ?
Sur la Méduse, plus généralement, il y a essentiellement des hommes, des marins, des soldats qui ont vécu l'époque napoléonienne et qui sont confrontés au retour de ces émigrés, du roi de Chaumaret en est un exemple, qui prennent les places alors que les lieutenants de vaisseau attendaient une promotion, et c'est aussi une des raisons de l'antagonisme entre eux. Donc c'est un prolongement de l'Empire d'une certaine manière, l'affaire de la Méduse, y compris, on y reviendra sans doute, dans le contexte politique d'affrontement entre les anciens bonapartistes libéraux et les monarchistes ultra.
C'est une des grandes affaires de la Restauration et l'on se rend compte de l'extraordinaire opposition que pouvaient nourrir à l'époque les Français de plusieurs bords. Il y avait ceux qui avaient le souvenir de la Révolution et dont beaucoup étaient devenus bonapartistes, pas tous, il y avait aussi des républicains d'ailleurs. Et puis, il y avait les libéraux, dont on dira un mot tout à l'heure, et les monarchistes qui soutenaient naturellement la restauration du roi Louis XVIII. Mais ces gens-là avaient du mal à vivre ensemble. Nous sommes dans une société qui est très divisée à l'époque.
En 1816, on est à peine un an après la chute de Napoléon. L'été 1815 a été marqué par la Terreur blanche, a été marqué aussi par l'arrivée au pouvoir de ces fameux ultras, la chambre introuvable composée de royalistes plus royalistes que le roi. C'est une expression qui dit bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire des hommes qui n'ont rien oublié, rien appris de la Révolution, qui veulent le retour à l'ancien régime, qui veulent le retour à l'ancien régime et qui évidemment vont se trouver confrontés, opposés aux libéraux qui n'étaient pas forcément favorable à Napoléon, mais ne souhaite pas le retour à l'ancien régime. Donc il y a un antagonisme très fort. Et pourquoi la Méduse va-t-elle en quelque sorte cristalliser ses oppositions ? Parce qu'on va reprocher au ministre de la Marine, qui s'appelle Dubouchage, qui est un ultra, qui fait partie des ultras, on va lui reprocher d'avoir été finalement aussi incompétent que son commandant en le choisissant. Et au-delà du ministre, c'est pratiquement le régime qui est dénoncé.
La dureté de ce qu'ont subi les rescapés, et notamment les actes d'anthropophagie, ont profondément marqué l'imaginaire des Français. Et l'on peut faire confiance aux journalistes de l'époque pour en tirer parti. Il faut bien comprendre que la presse de l'époque est une presse très engagée, c'est une presse politique qui va monter en épingle, si je puis dire, le fait divers de la Méduse.
Alors c'est une surprise énorme quand on lit dans la presse. Ça représente pratiquement les trois quarts du numéro du journal des débats du 13 septembre 1816. On y lit le rapport d'un officier de santé qui était sur le radeau, qui a écrit ce rapport pour le ministre, mais ce rapport a été divulgué dans différentes circonstances sur lesquelles je n'insiste pas. Il a été divulgué, transmis à la presse, et c'est ainsi qu'il est publié. Le journal des débats, c'est évidemment, c'est pas énormément de lecteurs, c'est 20 000 lecteurs. Mais dans une population où il n'y a que 100 000 électeurs.
Et puis c'est repris, surtout constamment
et
partout.
C'est repris par la presse de province. Autrement dit, le public lettré est au courant de l'affaire, est scandalisé par la découverte de l'anthropophagie, mais finalement va prendre aussi fait et cause. Très rapidement, pour les rescapés, on va lancer des souscriptions, par exemple, pour venir en aide aux rescapés qui ont tout perdu dans le naufrage.
Alors, tout à l'heure, si vous le voulez, nous allons revenir sur un certain nombre des points précis de l'affaire et on va essayer de les éclaircir. Pour clore avec le contexte de l'époque, on comprend bien que c'est une affaire qui est en train de devenir une affaire politique et symbolique. Le radeau de la Méduse est l'allégorie d'une certaine époque et d'une France qui n'accepte pas le nouveau régime, en quelque sorte.
C'est une France divisée, divisée sur le navire entre bonapartistes et royalistes, divisée sur le radeau, avec aussi des clivages sociaux, les officiers au centre du radeau, les soldats et les marins qui tentent tant bien que mal de survivre. Donc effectivement, c'est pratiquement la guerre civile qu'on a connue à l'époque de la Révolution, qui rejoue sur le radeau.
Et cette guerre civile, elle trouve une caisse de résonance dans la presse de l'époque, donc, qui va, en quelque sorte, tellement marquer les consciences que 200 ans plus tard, on en parle encore. Je me disais, en préparant cette émission tout à l'heure, qu'on aurait très bien pu évoquer bien d'autres faits divers, dont certains ont été malheureusement aussi affreux que celui de la Méduse. Mais comme par hasard, c'est celui-ci dont on parle, parce qu'à l'époque, il a eu cet extraordinaire, il a bénéficié, si je puis dire, de cet extraordinaire abattage, et puis du tableau de Jéricho, qui n'est pas nul après tout. Hein.
Non, mais effectivement, la mémoire s'est conservée dans les familles des rescapés, mais aussi chez de très nombreux écrivains. Quand on relit la littérature du 19e siècle, on est frappé de voir le nombre de références au naufrage de la Méduse, et encore au XXe siècle, il inspire des musiciens, il inspire des écrivains, il inspire aussi des auteurs de bandes dessinées, Uderzo par exemple, ou Hergé. Bref, cette affaire est devenue un véritable mythe qui renvoie aussi au problème de la survie, évidemment, dans un monde qui est un monde d'adversité.
Alors, pour essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé, le mieux est quand même de retourner vers les récits, d'aller chercher à la source le témoignage de ceux qui ont vécu, soit sur la machine, sur le radeau, soit dans les canaux de sauvetage. Combien au total y a-t-il de rescapés de cette terrible affaire ?
Alors sur le radeau, il y a 15 rescapés, retrouvés par le brick Largus. Sur les 15, il y en a 5 qui meurent dans les semaines ou les mois qui suivent. Et parmi donc les 10 survivants, 2 on écrit le livre qui fait vraiment scandale dans le prolongement du rapport de Savigny. C'est Savigny lui-même, donc l'officier de santé, qui est à Paris, qui revient à Paris pour finir ses études de médecine, et Coréard, Alexandre Coréard, qui était un ingénieur géographe parti pour coloniser le Sénégal. Ce premier témoignage est vraiment essentiel. C'est d'ailleurs ce livre que Jéricho lit et qui lui donne l'idée de faire le tableau. Mais il y a d'autres témoignages, en particulier celui d'un capitaine d'infanterie qui encadre les troupes présentes sur le radeau, qui va lui aussi, c'est le capitaine Dupont, qui va lui aussi témoigner dans un récit qui sera publié, mais beaucoup plus tardivement. Et puis, il y a des témoignages indirects, par exemple celui du charpentier Touche-la-Villette, qui s'est confié. Il n'est pas tout à fait d'accord avec Savigny, il n'a pas voulu écrire, mais en revanche, on sait qu'il a beaucoup discuté avec Géricault. Et enfin, on peut encore citer un témoignage qui est intéressant, que j'ai retrouvé à la bibliothèque municipale de Brest, qui est anonyme, mais dont je pense qu'on peut l'attribuer à un sous-officier qui s'appelle Charlot, parce que cet homme est originaire de Bretagne et que plein d'indices laissent penser qu'il s'agit de lui. Donc on a, disons, 5 à 6 témoignages, directs ou indirects, de ce qui s'est passé sur la machine.
C'est tout ce qu'on a lorsqu'on travaille sur l'affaire du radeau de la Méduse, enfin de la Méduse et de son naufrage.
On a aussi tous les témoignages, tous les interrogatoires qui ont été produits ensuite au moment du retour en France. Tous les témoins ont été interrogés et puis on a à nouveau interrogé les témoins au moment du procès de Chaumaret. La plupart n'étaient pas sur le radeau, mais ils ont raconté tout ce qui s'était passé avant et après. Et on a aussi des témoignages des officiers qui, par exemple, lorsqu'ils ont retrouvé le radeau, ont pu témoigner des faits d'anthropophagie.
Alors voilà, ces faits d'anthropophagie, c'est le cœur même de l'affaire. C'est ce qui surprend, c'est ce qui choque les gens. En 1816, écrivez-vous, les Français sont choqués mais en même temps fascinés par la lecture des récits du naufrage de la Méduse. Le succès du livre de Savigny et Coréard, et qui connaît 5 éditions en 4 ans, confirme cet attrait pour une aventure humaine exceptionnelle au sens où elle déborde des cadres habituels de la vie en société et fait rejaillir une pratique généralement attribuée au monde sauvage. Et d'ailleurs, il y a un des survivants, il y a ces Paulin d'Anglas, hein, qui va dire, alors lui, il était parmi ceux qui se sont qui ont été sauvés par les...
Il a échappé au radeau.
Par les canaux, oui, voilà. Il a traversé le désert, mais il a subi quand même la faim, la soif, de très grandes souffrances. Et il explique que le recours à l'anthropophagie est totalement immoral. Alors on lui dit, mais il n'avait pas le choix, etc. S'il faut succomber en proie aux besoins les plus pressants, sachant mourir, dit-il, respectons surtout les droits de l'humanité, qu'on ne dise jamais de nous, des Français ont bu le sang de leurs frères. Pas moyen d'accepter ce tabou, bien entendu, même dans les circonstances les plus terribles. Et ça va faire un débat supplémentaire et une opposition supplémentaire dans l'opinion.
Oui, on est dans une période, la Restauration, qui est marquée par le retour en force de l'Église catholique. Et évidemment, pour l'Église catholique en particulier, mais pour la société en général, pratiquer l'anthropophagie, c'est impensable. C'est tellement impensable, d'ailleurs, que le législateur ne l'a même pas introduit dans le code pénal. Ça n'est pas répréhensible.
C'est extraordinaire. Ça paraissait tellement inouï, cette histoire de cannibalisme, qu'on n'avait même pas pensé à en faire un article du code pénal.
C'était tout à fait, ce qui est étonnant.
Alors, l'aventure qui s'est déroulée sur le radeau de la Méduse est inscrite dans son époque, mais elle atteint un degré de l'intemporalité qui explique la force du mythe qu'elle a fait naître. Elle ramène l'homme à sa condition de mortel, prêt à tout pour assurer sa survie, écrivez-vous. C'est en cela que l'affaire continue de nous intéresser. Vous savez, j'ai eu l'occasion de consacrer depuis de nombreuses années pas mal d'émissions, enfin 3, je crois qu'aujourd'hui c'est la 4e que nous faisons sur l'affaire du radeau de la Méduse. Et à chaque fois, ça passionne le public parce que les questions que ça posait aux Français de 1816 n'ont pas tellement changé. Ce sont les questions qui se posent aujourd'hui aux Français de 2016. Est-ce que face à l'indicible, est-ce que dans des circonstances et dans des conditions de survie extrêmes, on peut transgresser ce fameux tabou? La question, elle a été posée, elle l'est toujours.
Elle l'a été de tout temps, ce qu'on appelle l'anthropophagie de famine, c'est-à-dire quand il y a une famine, le recours au cannibalisme est classique. On en retrouve des témoignages dans la Bible, aussi bien que dans des récits plus contemporains. On songe à cet avion qui s'était perdu dans les Andes, par exemple. Donc c'est un phénomène qui est intemporel, et c'est pour cette raison aussi que l'affaire de la Méduse nous parle tant, sans parler bien entendu du fait que des naufrages, nous en vivons quotidiennement, et des drames en mer, ils sont récurrents, avec toujours, et c'est aussi pour cela que c'est un mythe qui fascine, avec toujours la perspective de s'en sortir. Et c'est ce qui fait la force, à mon sens, du tableau de Géricault, c'est de montrer le moment où les rescapés vont enfin voir la lumière et pouvoir espérer un monde meilleur.
Alors, qui est responsable de cette horreur? On se doute que c'est bien Chaumaret. Quelles ont été les erreurs commises? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Nous avons un certain nombre de questions à vous poser dans un instant, Jacques-Olivier Boudon.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
reconnu la bande originale du film Pirates des Caraïbes pour illustrer cette émission cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, consacré au naufrage de la Méduse, c'était il y a quasiment 200 ans jour pour jour. Et vous recevez Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'université Paris-Sorbonne, directeur scientifique de la bibliothèque Marmottan et auteur des Naufragés de la Méduse paru chez Belin.
L'autre jour à Toulon, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Mais vous savez que je suis le descendant d'une des survivantes de la frégate, la Méduse, et qu'il va y avoir bientôt une grande réunion à Rochefort. » Alors je crois que la réunion a eu lieu maintenant, hein, Jacques-Olivier Boudon.
Oui, elle a eu lieu il y a 3 semaines, je crois. Ils étaient une 60aine, donc ils descendent de Charlotte Picard, qui est un des témoins qui a raconté ce qu'elle a vécu sur le navire et ensuite dans la traversée du désert. Mais tous n'étaient pas présents. Il y a encore d'autres survivants. Je suis frappé, depuis que j'ai publié ce livre, de constater le nombre de témoignages de gens qui me disent « Mais mon ancêtre était sur la Méduse ».
C'est-à-dire que quand on était sur la Méduse et qu'on s'en est sorti, qu'on ait voulu ou non publier le témoignage, on a généralement laissé une relation des événements, ce qui finit par donner un fond documentaire très intéressant et qui n'est sûrement pas encore au bout. On doit pouvoir trouver encore des documents.
Probablement, y a-t-il encore des documents. On en a retrouvé d'ailleurs un qui est presque en style télégraphique, qui était complètement inconnu, qui a été acquis il y a 3 ans par la bibliothèque de Brest. Donc il est probable que dans les familles, il y a encore des témoignages sur ce drame.
Certains d'entre vous ont peut-être vu il y a, je sais pas, une bonne année maintenant, sur Arte, un très très beau documentaire de Hervé Jouon et Émilie Dumont, avec bien sûr Philippe Mathieu, qui était un peu le fil conducteur, si je puis dire, le passeur de cette affaire. Et l'on voyait la reconstitution du radeau, c'est-à-dire que la machine, de la manière la plus scientifique possible, à partir de tous les éléments dont on disposait, notamment d'un certain nombre de croquis, etc., la machine a été reconstituée, on l'a remise à l'eau, et on a fait monter des gens dessus pour voir ce que ça donnait. C'est-à-dire que les pauvres malheureux, si je puis dire, qui ont participé à l'expérience pendant quelques heures, ne sont pas prêts de l'oublier. Donc vous imaginez ce que ça a dû être quand on était des jours entiers sur le radeau. C'est une belle histoire, c'est une belle expérience en fait.
Tout à fait, d'autant plus que ce radeau est encore visible au musée de la Marine à Rochefort.
À Rochefort, oui.
Et que donc il faut bien sûr s'y rendre. On est parti à la fois du tableau et du plan que Coréard avait posé dans son livre,
c'est ça,
mais qui était en 2 dimensions. Donc il a fallu
inventer la troisième, justement. C'était toute la question. Et puis c'est là qu'on se rend compte, parce que on l'avait beaucoup dit et tous les témoignages concordent de ce point de vue, mais c'est que le radeau n'est pas tout à fait à la surface. En vérité, il est entre deux eaux. Il flotte plus ou moins à plusieurs centimètres sous la surface de l'eau. Donc ça donne un côté terrible. C'est vraiment et c'était des conditions de survie épouvantables.
Sans compter les requins qui
et bien
qui
entendu,
étaient en contour.
Oui. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû insister sur les requins, parce que ce sont eux qui happent peu à peu les survivants. La véritable histoire du radeau de la Méduse, c'est le nom de ce documentaire, de ce téléfilm. Votre ouvrage s'appelle tout simplement « Les naufragés de la Méduse ». C'est chez Belin, Jacques-Olivier Boudon. Et puis Michel Agnier a publié également « Le naufrage de la Méduse 1816-2016 » aux éditions L'Encre de Marine. Et avec tous ces travaux très sérieux, là pour ce bicentenaire, on peut dire qu'on a fait fort. Grâce à tous ces travaux, on a un aperçu très fin de ce qui s'est passé. Alors, est-ce que Chaumaret aurait pu, ça c'est une évidence, mais aurait dû éviter le... Pardon, c'est l'inverse. Dû éviter, c'est une évidence, mais est-ce qu'il aurait pu éviter le naufrage? Est-ce qu'il y avait un moyen d'échapper à cette catastrophe?
Ah oui, incontestablement. Il aurait fallu d'ailleurs d'abord qu'il reste avec les autres navires. L'Écho a suivi une route tout à fait conforme. On ne sait pas très bien à cette époque où sont les bancs de sable, mais on sait qu'il faut les éviter en passant le plus au large possible. Donc là, il a fait preuve d'incompétence. Alors, il faut dire qu'il n'est pas aidé par son équipage. Il y a une tension très forte entre ses officiers et lui-même. Et puis, par ailleurs, il subit la pression du gouverneur du Sénégal, le colonel Schmalz, qui veut rapidement arriver à Saint-Louis et qui fait pression pour qu'on aille le plus vite possible. Donc, que l'on reprenne la route du sud-est rapidement et qu'on évite de sonder. Parce que pour sonder, il faut s'arrêter, ça prend du temps. Donc, ce sont les raisons qui expliquent que Chaumaret n'est...
On connaissait la gravité, enfin le danger de ce banc d'Arguin. C'est assez étonnant qu'on l'ait traité de façon vraiment très, très superficielle. Hein.
On le connaît, mais je pense que Chaumaret a imaginé...
Preuve de désinvolture,
voilà, il a été désinvolte. Il est conseillé par un ancien officier de marine qui dit être venu dans la région et bien connaître les côtes, qui s'appelle Richefort, qui est très méprisé par les officiers du bord, ce qui ne va pas non plus arranger les relations entre le capitaine et son équipage.
Non, ça, bien entendu. On va venir à un certain nombre de figures, bien entendu, parce que c'est un des points forts de votre livre, que de donner enfin un visage, si je puis dire, et un caractère et un destin à chacun de ces grands témoins. Le capitaine Hugues du Roy de Chaumaret va donc être jugé, condamné. À l'époque, la condamnation a paru légère. En vérité, elle n'était pas tant que ça.
Il aurait pu être condamné à mort, c'était la peine prévue. Il est condamné à 3 ans de prison, c'était le minimum, finalement, par des officiers qui ne sont pas tous d'ailleurs favorables, parce que beaucoup, certains, enfin en tout cas, ont voté la mort, mais bon, il fait preuve, enfin, il a fait l'objet d'une certaine clémence et il perd aussi ses décorations. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive et une fois libéré, il n'aura de cesse que de récupérer ses décorations et, dit-il, au moins une. C'est assez étonnant, cette volonté d'être reconnu d'une certaine manière.
Au moment du naufrage, il fait un tri très net dans la population embarquée. Il est évident qu'on est à une époque où la hiérarchie sociale est très appuyée, mais enfin tout de même, il y a le bon canot, les moins bons canots, et ensuite la machine pour le tout venant. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'on aurait pu essayer de sauver les naufragés du radeau? Est-ce qu'on aurait pu essayer au moins de récupérer le radeau et de l'arrimer de nouveau au train des canots?
C'est certain, puisque la mare est rompue vraisemblablement à l'initiative du gouverneur Schmalz, mais on aurait pu revenir en arrière, récupérer le radeau et le tracter jusqu'à la côte. Il faut une journée à peu près pour aller jusqu'à la côte.
On a fait exprès de l'abandonner d'une certaine manière.
Et on sait en l'abandonnant, enfin on espère en l'abandonnant, ne plus voir de survivantes. D'où la surprise du colonel Schmalz et de Chaumaret de voir arriver ces rescapés qui sont des témoins gênants.
Pour eux, ça a dû être un vrai cauchemar.
Ça a été terrible.
Ils se disaient, bon voilà, ils ont disparu en mer, on n'entendra jamais parler d'eux et personne ne saura ce qui s'est passé. Et voilà qu'arrivent non pas un ou deux, mais 15 survivants. Donc c'est terrible, ça va faire beaucoup de témoignages, ça forcément.
Et Chaumaret d'ailleurs ne parvient pas à dire ce qui s'est passé. Dans les rapports qu'il écrit, on a l'impression que le naufrage n'a pas eu lieu. Et il explique en fait qu'il a sauvé l'essentiel de son équipage, puisqu'en effet, les marins étaient le plus souvent sur les canots ou sur la chaloupe, et sur le radeau, il y avait essentiellement des soldats. Donc il a l'air assez content de lui, et finalement...
Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est quand il envoie le brick Largus, quand il le renvoie sur les lieux du crime, si je puis dire, parce qu'on peut sans doute parler d'un crime, ça n'est pas à des fins humanitaires, c'est pour récupérer des tonneaux d'argent.
L'argent, le matériel aussi, des vivres. Et d'ailleurs, il va y avoir ensuite une ronde de navires qui vont aller vers le banc d'Arguin pour récupérer tout ce qui peut l'être sur une frégate qui n'a pas encore sombré complètement. Elle est encore visible, donc on va pouvoir récupérer ce que l'on peut, sauf l'argent. L'argent, on ne l'a jamais retrouvé, ou peut-être celui qui l'a retrouvé ne l'a pas dit.
Oui, parce qu'il est possible. Il est possible que ça n'ait pas été perdu pour tout le monde.
Exactement.
Alors, je parlais de ces figures de rescapés. Vous avez cité plusieurs fois Coréard depuis tout à l'heure. Ça, c'est un personnage intéressant.
C'est un personnage intéressant, dans un ingénieur géographe qui part pour le Sénégal et donc un des survivants, il a failli rester. Mais ensuite, il va véritablement se mobiliser contre le régime de la Restauration. Il ouvre une librairie qui s'appelle « Aux rescapés de la Méduse » et publie les grands auteurs hostiles à la Restauration, comme Béranger, comme Saint-Simon. Bref, il va se faire une spécialité de l'opposition au régime de la Restauration. Ensuite, il aura une carrière plus amusante puisqu'il va se lancer dans le chemin de fer.
Il écrit avec Savigny d'ailleurs l'ouvrage, enfin la grande relation qui va être lue par tout le monde, qui a ce succès incroyable, est coécrite en fait.
Tout à fait. Savigny, lui, est officier de santé. Il devient médecin et lui se retire du côté de Rochefort où il devient médecin de campagne, maire de sa petite ville, du petit village où il exerçait, puis même juge de paix. Donc il rentre dans le rang, si je puis dire, devient un petit notable de la France de la Restauration.
Alors Coréard mourra en 1857, donc sous le Second Empire, et Savigny lui meurt en 1843. Donc tous ces gens-là ont quand même ensuite eu le temps de profiter de la vie, c'est assez extraordinaire.
Ils ont même reçu la Légion d'honneur au début de la monarchie de Juillet, ce qui était une sorte de pied de nez que faisait la monarchie de Juillet avec la figure de Jacques Lafitte qui avait été un des libéraux qui avait pris fait et cause pour ses rescapés. Donc pied de nez de la monarchie de Juillet au régime de la Restauration.
Je me rappelle une émission que nous avions faite en prenant comme personnage Touche-Villette. Ce Touche-Villette, lui, est... j'ai envie de dire, est plus mystérieux. On ne sait pas grand-chose de lui. Sinon qu'il a été l'un des modèles qui ont servi à Géricault pour sa grande composition.
Géricault qui en fait un ouvrier, c'est assez étonnant parce qu'il est charpentier. En fait, il a une petite entreprise de menuiserie à Paris et j'ai retrouvé sa trace, si je puis dire. C'est un ancien de la garde impériale. Il a fait une carrière sous l'Empire. C'est ce qui explique qu'il ait réussi, lui, à s'en sortir parce que c'est un gaillard très costaud qui a raconté d'ailleurs qu'on avait essayé de le jeter à la mer mais qu'il avait réussi à se défendre.
Tous les témoignages ne coïncident pas, il faut le dire, notamment sur le fait principal qui est celui du cannibalisme. Tout le monde n'est pas tout à fait... Je pense au capitaine Dupont, lui, là...
Le capitaine Dupont, il n'a rien vu.
Il ne
mentionne jamais le cannibalisme. Et puis Savigny explique que ce sont les autres qui ont commencé, alors que d'autres disent non, c'est Savigny qui a le médecin qui...
Mais comment est-il possible qu'il n'ait rien vu? On ne parle pas d'un pont avec...
Dupont n'a rien vu. Il a bien sûr vu, mais il ne veut pas raconter, il ne veut pas dire. Il refuse de dire l'indicible, et donc il ne parle pas de cannibalisme et explique que s'il a survécu, c'est parce qu'il avait quelques vivres dans ses poches, et en particulier un morceau de saucisson dont on peut supposer qu'il était plus proche de la chair humaine que du saucisson auquel il pense.
Vous avez parlé tout à l'heure de Hergé, de Goscinny d'Erzo, bien entendu, hein, la grande traversée. Cette affaire de naufrage et de cannibalisme fascine, bien entendu. Elle est devenue, on peut dire que le radeau de la Méduse est devenu une sorte de grand mythe maintenant. C'est un mythe qui est au cœur même des galeries du Louvre, hein, puisque l'immense toile de Géricault est toujours là, au centre. Elle est un peu jaune d'ailleurs, elle a mal vieilli, elle a noirci, hein, les vernis je crois ne tiennent pas tout simplement. Elle était, il faut l'imaginer, beaucoup beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus colorée en fait, avec une dominante de bleu et non pas de jaune comme ce qu'on voit aujourd'hui. Mais donc ce mythe, que nous dit-il aujourd'hui en 2016, 200 ans plus tard?
Alors c'est un mythe aussi parce que quand on voit le tableau, on est souvent incapable de dire à quoi il correspond, à quelle période, à quel événement. En fait, le naufrage, c'est l'inconnu et ça nous renvoie à des récits bibliques, on pense à l'Arche de Noé, etc. Et cela renvoie bien entendu à une réalité beaucoup plus contemporaine, mais cette confrontation avec les éléments, cette question de la survie, de l'espoir aussi, ce sont tous ces éléments qui expliquent, me semble-t-il, le succès de cette toile et que l'événement continue à fasciner 200 ans après.
Les naufragés de la Méduse de Jacques-Olivier Boudon, c'est aux éditions Belin. Merci.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, retour aux origines avec une question de Younes, qui, on reste dans le domaine maritime, qui vous dit « Je suis un amoureux des phares et je me demandais quand ils ont été inventés, pourriez-vous éclairer ma lanterne ?»
Les phares et balises, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par cette affaire. Quand on parle de phares, évidemment, on pense tout de suite au célèbre phare d'Alexandrie. D'ailleurs, le mot « phare », ça vient du grec « pharos », c'était un nom commun dérivé du nom d'une île qui était toute proche de la ville d'Alexandrie, cette île de Pharos, où, au début du 3e siècle avant notre ère, le roi Ptolémée Ier entame la construction d'une tour dont certains estiment la taille à environ 130 mètres de haut. C'était une des sept merveilles du monde, bien entendu, cette tour de l'île de Pharos. Alors, malgré ça, il ne faudrait pas imaginer ce phare aussi efficace que peuvent l'être nos phares modernes. La lumière qu'on était capable de faire dans une telle tour à l'époque pour avertir les navires, pour repérer les capitaines, était une lumière sans doute relativement faible. Ce phare est aussi un instrument de prestige, un symbole de la puissance égyptienne. Sa construction s'achève donc sous le règne de Ptolémée II Philadelphe, qui était le fils de Ptolémée Ier, hein, ce général d'Alexandre devenu pharaon d'Égypte. Ce phare guide les marins de manière sans doute discontinue pendant des siècles. Il a déjà été abîmé à plusieurs reprises, il a été entièrement détruit, reconstruit, encore détruit par un séisme au début du XIVe siècle. Ce phare d'Alexandrie, c'est le plus célèbre, mais ce n'est pas le premier de l'histoire. La navigation de nuit, ou tout simplement à la saison froide, est une difficulté qui a préoccupé les marins depuis toujours. Et pour pallier ce problème, il arrivait dans l'Antiquité que des feux soient allumés à des emplacements très précis, à des emplacements stratégiques, notamment à l'entrée d'un port. Différentes civilisations, les Grecs notamment, puis les Romains, ont bâti des tours dans lesquelles un feu était entretenu. Ces phares étaient en nombre limité, bien entendu. Ça restait toujours des ouvrages exceptionnels. Alors à partir de la chute de l'Empire romain, les phares sont moins utilisés, comme bien, c'est pas évident. Ils deviennent moins utiles du fait de la relative diminution des échanges commerciaux. Il va falloir attendre le retour d'un commerce maritime de grande ampleur et d'états puissants structurés au Moyen-Âge pour voir réapparaître les phares. Sous le règne de Louis XIV, on construit des phares encore visibles de nos jours, comme celui du Cap Fréhel. Il aurait fallu parler de celui de Cordouan, bien entendu. Bref, au XIXe siècle, période faste pour les phares cette fois, seulement 24 sont répertoriés en 1800 et dans la décennie 1880, leur nombre s'élève à 360, avec des techniques qui les rendent beaucoup plus lumineux et beaucoup plus visibles. Aujourd'hui, le rôle accru des systèmes de navigation très élaborés, le GPS pour parler clair, rend les phares un peu moins utiles. Quoique, je pense que dans certains cas, on est bien content de voir la petite lumière s'allumer à l'horizon. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.
Bonjour Franck, et vous êtes notre phare à nous ici à Europe 1, le savez-vous. Alors aujourd'hui Franck, une émission pour vous, une émission football.
Ah bah oui, c'est
voilà,
cool.
On va se demander si les Bleus sont bien entourés alors que l'équipe de France joue dimanche en quart de finale contre l'Islande. Ce que vous savez, on s'intéresse à l'envers du décor. Qui sont les fameuses WAGs? Vous savez, les Wife and Girlfriends. Des joueurs, quel
j'aime
rôle...
Bien, vous savez, non, je ne sais pas.
Eh bien, je vous l'apprends. On appelle ça les WAGs. Quel rôle joue l'entourage des joueurs? Et enfin, comment se passe la vie à Clairefontaine? On va en parler avec le grand spécialiste des Bleus qui a écrit un livre sur la question où il dévoile tout.
Merci beaucoup Marion. Et nous nous retrouvons demain, chère Anissa.
Avec grand plaisir.